Divergence FM, l'interview.
Bonjour, et bien aujourd'hui, petit entretien avec le professeur Dubois et avec René Vacher, chef d'orchestre, autour d'un événement qui va avoir lieu le 17 mai prochain en l'église Sainte-Thérèse à 20h30 où l'Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier va jouer le concerto pour violoncelle de Dvorak et puis des extraits des tableaux d'une exposition de Moussorgski dans l'orchestration de Maurice Ravel et du Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov. Tout ça au profit de la Ligue contre le cancer. Alors, professeur Dubois, vous vous occupez de la Ligue contre le cancer, une association ou un mouvement militant qu'on connaît de nom, mais dont on ne connaît pas forcément l'histoire et les activités. Alors, est-ce que vous allez pouvoir nous éclairer, j'imagine que oui, bien sûr, sur ce sujet? Vous me disiez, c'est une association centenaire.
La Ligue contre le cancer a été effectivement créée le 14 mars 1918, en pleine Première Guerre mondiale. La guerre n'était pas terminée et le cancer apparaissait déjà comme un fléau national très important qui touchait toutes les familles pratiquement, et d'ailleurs c'est toujours le cas malheureusement, où de près ou de loin nous sommes tous touchés par cette maladie. Elle a donc été créée il y a 100 ans, un tout petit peu plus de 100 ans, et c'est une association qui regroupe l'ensemble de tous ceux qui sont concernés par le cancer, aussi bien les professionnels de santé. J'étais moi-même professionnel de santé, médecin cancérologue, jusqu'à il y a 4 ans. Depuis que je suis à la retraite, donc je m'occupe de la Ligue, et j'ai le même enthousiasme, le même esprit militant, au beau sens du terme, pour la lutte contre le cancer. Et dans cette association, il y a des anciens patients, des familles de patients, des médecins en activité, des médecins à la retraite comme moi-même, l'ensemble de tous ceux qui sont concernés par le problème. La Ligue a effectivement des missions qui sont définies depuis maintenant donc un siècle. Et c'est dire l'esprit visionnaire de ceux qui ont constitué, qui ont créé, qui ont fondé la Ligue à l'époque, les grandes missions fondatrices de la Ligue n'ont pas changé depuis 100 ans. Aide aux patients, information sur la prévention et le diagnostic précoce qu'on appelle maintenant le dépistage, et soutien à la recherche. La Ligue est le plus fort soutien privé de la recherche sur le cancer en France. Elle ne fait pas que le soutien à la recherche, mais elle a une très forte activité de soutien à la recherche avec des conseils scientifiques nationaux, régionaux, qui ont une objectivité et une valeur scientifique reconnue, qui nous permet d'être sur le plan de la qualité des projets soutenus par la Ligue, au même niveau que ceux soutenus par des organismes institutionnels parfaitement reconnus et de très haut niveau scientifique, comme le CNRS ou l'INSERM.
Alors oui, vous dites donc au plan national et vous évoquez aussi, il y a des choses qui se déclinent au plan régional. Alors pour illustrer pour nos auditeurs, pour qui ça pourrait être abstrait, sur l'Occitanie, j'allais dire le Languedoc-Roussillon, maintenant il faut parler d'Occitanie, et sur le Grand Montpellier, qu'est-ce qui peut illustrer un petit peu l'action de la Ligue?
L'organisation de la Ligue est calquée très exactement sur l'organisation administrative de la France. Il y a 101 comités départementaux. Il n'y a pas 101 départements, parce qu'il y a quelques départements avec très forte démographie qui ont deux comités. Mais si on ajoute aux départements français de la métropole française les départements et territoires d'outre-mer, on arrive pratiquement, effectivement,
au 100. Le compte est bon, quasiment.
Le compte est bon. Et donc, chaque département a son comité. L'Hérault a un comité dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence depuis 3 ans maintenant, et c'est un comité extrêmement actif qui a une histoire importante et qui continue à avoir un nombre d'adhérents qui est stabilisé, avec quelques difficultés d'une certaines années pour maintenir ce nombre d'adhérents, parce que la générosité publique a malheureusement des limites. Vu les concurrences d'autres associations, les concurrences de différents organismes qui permettent de répondre à de réels besoins autres que ceux de la santé. Mais la Ligue, donc, au niveau départemental, a entre 12 et 13 000 adhérents chaque année, c'est-à-dire des donateurs. Nous avons 650 bénévoles et 81 délégations dans les communes du département. C'est un département très actif dans ce domaine-là, avec un maillage territorial très fort. Je rappelle que la Ligue nationale a au total pour tout le territoire français 340 délégations et l'Hérault à lui tout seul en a 81. Donc ça c'est quelque chose de très important. Nous sommes un petit peu enviés sur le plan national par notre importance dans l'implantation locale jusque dans les plus petites communes où nous avons différentes manifestations qui viennent au profit de la Ligue. Les ressources de la Ligue sont multiples, hein, les dons, les manifestations, les subventions, et nous avons un budget annuel de 2,5 millions d'euros. Mais ce budget, bien entendu, on voit très bien qu'il faut absolument diversifier les modes de ressources. Les lotos, les manifestations, les vides-greniers, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est quelque chose de très important, mais nous avons besoin de tout, de tout le monde. Et nous travaillons actuellement sur le mécénat, en particulier le mécénat d'entreprise, et bien entendu sur les différentes aides. Et j'en viens là à une aide qui est tout à fait importante que l'Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier nous accorde depuis maintenant 6 ans. Chaque année, un concert de très haut niveau artistique, de très grande qualité musicale, qui nous permet de conforter nos ressources. Et pour cela, nous sommes très, très heureux de pouvoir être là, présents, aux côtés de cet orchestre qui nous apporte son soutien.
Alors, on va tout de suite s'intéresser à l'orchestre. Juste une petite question, avant de passer à la question musicale, artistique de cet événement-là. Vous évoquez des bénévoles tout à l'heure, hein, qui agissent. Alors, j'imagine que vous êtes toujours... Les bénévoles, c'est toujours ce qui manque. Quelles compétences vous cherchez chez les bénévoles et qu'est-ce qu'ils font ?
Alors, les bénévoles, les compétences sont multiples. Puisqu'ils peuvent faire, on peut leur confier des tâches multiples. Organisation d'une manifestation, participation à des informations. Nous avons des bénévoles qui font de l'information sur la prévention des cancers. On a plusieurs bénévoles avec une salariée de la Ligue qui vont dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, pour parler sur l'alimentation, parler également sur le tabagisme, parler sur différents modes de comportement, en particulier le sport, pour prévenir certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc. Donc tout cela concourt au rayonnement de la Ligue, et ces bénévoles-là, ils peuvent également aussi nous apporter leurs compétences parfois professionnelles. Nous avons des personnes qui sont issues du domaine de la banque, on les met bien entendu à la gestion administrative et financière, des personnes qui sont issues du domaine de l'éducation nationale, on les met bien entendu au niveau de l'information sur la prévention, comme je le disais, sur le dépistage, dans différentes circonstances. Nous avons des médecins, j'en suis un. Et je fais régulièrement, j'étais encore hier soir à Saint-Chinian pour faire une conférence sur les avancées en cancérologie, des médecins qui font des conférences de type médical pour stimuler la population, pour stimuler les militants, pour stimuler les bénévoles, pour faire en sorte que les cadres des bénévoles se renouvellent. Et nous avons besoin de bénévoles, de plus en plus, de bénévoles, si possible jeunes, parce que nos bénévoles, aussi généreux soient-ils, comme tout le monde, malheureusement, ils vieillissent. Et nous avons besoin de renouveler cela. Et là, vous me donnez l'occasion de faire un appel.
Voilà, c'était un petit peu pour ça que je vous posais cette question.
À ces bénévoles. Et je dois dire que je suis agréablement surpris par le fait que nous accueillons actuellement des bénévoles qui ont un âge très, très, très faible. Je dirais, on a des jeunes parmi nos bénévoles. Et ça, c'est quelque chose de très important, de très réconfortant.
Alors, des jeunes parmi les bénévoles, des jeunes aussi, dans un orchestre, alors professionnel, amateur, l'Orchestre Symphonique Universitaire, René Vacher. Vous me disiez tout à l'heure, ça fait 28 ans que vous avez créé cet orchestre. Alors, comment il fonctionne ? Quelle est son histoire ? Comment vous est venue cette idée ? Voilà.
Cette idée m'est venue par le fait qu'il y a une trentaine d'années, on connaissait déjà quelques villes françaises qui avaient un orchestre universitaire.
Oui, il n'y a pas qu'à Montpellier, il y en a d'autres ailleurs.
Ah, maintenant, il y en a à peu près dans toutes les grandes villes universitaires. L'idée de base était de créer à Montpellier la possibilité pour les musiciens qui viennent, pour les étudiants qui viennent, musiciens qui viennent et qui pratiquaient la musique dans l'endroit où il était, mais qui maintenant se trouvent regroupés dans un centre universitaire, de pratiquer la musique d'ensemble, ce qui est essentiel pour un musicien. Et donc, nous l'avons créé essentiellement avec cette finalité-là. La deuxième idée était aussi de disposer d'un orchestre quand c'était nécessaire pour les solennités académiques, qui étaient plus fréquentes à ce moment-là que ce qu'elles le sont maintenant, mais ça reste une possibilité pour jouer lors de la remise d'un doctorat honoris causa ou de choses qui demandent ce style de...
C'est le moment de jouer l'ouverture pour la suite académique de Brahms, alors.
Oui, absolument. nous l'avons dans notre bibliothèque, bien entendu. Et l'autre idée de base que nous avons aussi, c'est la possibilité de donner des concerts dans des villages ou des petites villes des environs, c'est-à-dire des endroits qui n'ont pas la chance d'une ville comme Montpellier de disposer d'un vivier de concerts absolument considérable. Donc, si au début de la création de l'orchestre, cette idée de jouer aussi à Montpellier était utile, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui, sauf pour des événements comme un concert au bénéfice de la Ligue, par exemple, ou d'autres organisations. Mais par contre, nous avons beaucoup, beaucoup de succès et nous attirons beaucoup de public quand nous allons jouer dans des villages, par exemple, de la métropole de Montpellier. Nous avons actuellement...
Des concerts décentralisés, comme on dit, voilà.
Nous avons actuellement une subvention de la métropole dont le but est de nous permettre d'aller donner gratuitement des concerts dans les villages environnants. Ça vient de débuter cette année et c'est quelque chose qui, à mon avis, est très utile.
Et les musiciens, donc vous dites des étudiants, mais des étudiants en musique ou en musicologie ou des étudiants par ailleurs musiciens qui ont une pratique amateur de bon niveau ou...
Alors, ça n'est pas des étudiants de musique ou de musicologie d'une façon générale parce que les étudiants de musique ou de musicologie, par exemple les élèves du conservatoire ou les élèves de l'UFR musicologie de Paul Valéry ont une vision plus professionnelle, ils se destinent à une carrière musicale. Par contre, un étudiant allemand qui vient même à Paul Valéry, il reste ou chez nous pour parfaire sa connaissance de la langue française ou pour toute autre raison, est heureux de trouver un orchestre qui lui permet de continuer ce qu'il faisait nécessairement dans sa ville ou même dans son village s'il était allemand.
Donc vous avez en plus, je dirais, la richesse et peut-être la difficulté en tant que chef d'avoir un orchestre international.
Ah oui,
un peu comme l'orchestre des jeunes européens ou des choses comme ça.
Le nombre, mais depuis le début de l'orchestre, nous avons toujours un contingent assez important, je dirais peut-être 10%, entre 5 et 10% de l'orchestre qui est constitué par des étudiants allemands, en particulier maintenant avec les échanges Erasmus. Mmh, on a assez souvent des étudiants qui viennent pour 6 mois, mais qui sont contents de pouvoir continuer à pratiquer la musique d'ensemble. Parce qu'ils trouvent une formation sur place.
Alors, en tant que chef, j'imagine que ça doit poser une difficulté particulière, parce que vous avez un effectif très mouvant.
Ça, c'est tout à fait clair.
Donc, il y a un travail de fond qui se fait dans les orchestres traditionnels, qui là, il faut peut-être tout le temps le reprendre. Alors.
Oui, c'est clair que nous avons, en moyenne, un renouvellement, pas seulement pour les étudiants étrangers, aussi en tenant compte les étudiants français qui, malheureusement, ne sont pas étudiants toute leur vie, ce qui nous arrangerait bien. On a à peu près un renouvellement d'un tiers de l'orchestre chaque année, c'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, on donne rarement des concerts, on va avoir une exception cette année, mais on donne rarement des concerts pendant le premier trimestre de l'année universitaire.
Parce que l'orchestre se met en place.
Parce qu'il faut fusionner l'orchestre, il faut que les musiciens s'habituent à jouer ensemble.
Alors, le programme, un concerto pour violoncelle de Dvorak, le concerto pour violoncelle de Dvorak, qui est le deuxième en fait, on oublie toujours qu'il y a un premier qui n'a jamais orchestré, mais qui existe.
C'est vrai.
Voilà. Et puis, donc, des extraits des tableaux d'une exposition de Moussorgski dans l'orchestration de Ravel, je l'évoquais tout à l'heure, et puis... Cette célèbre espagnolade de Rimsky-Korsakov, le Capriccio espagnol, qu'on joue plus beaucoup, on le jouait beaucoup il y a une dizaine d'années, mais c'est une œuvre qu'on a, ou une vingtaine d'années même, mais c'est une œuvre qu'on a un petit peu oubliée, délaissée dans le répertoire.
C'est vrai.
Hein? Alors, Qu'est-ce que ces œuvres-là ont de particulier ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ? Déjà, je me suis trouvé un soliste pour le concerto de Dvorak. Alors, ça ne devait pas être si évident.
Je dirais un peu que en ce qui concerne le concerto de Dvorak, les choses se sont faites différemment. Nous avons décidé de jouer le concerto de Dvorak parce que nous avons dans l'orchestre un premier violoncelle qui a un niveau exceptionnel pour un amateur.
D'accord.
Il n'est pas professionnel, mais il pourrait l'être s'il voulait se donner.
Alors, on va peut-être mentionner son nom parce qu'on ne l'a pas précisé.
Il s'appelle Quentin Trémureau. Il est violoncelliste dans l'orchestre depuis 3 ans et il a pris la responsabilité du pupitre de violoncelle depuis 2 ans maintenant. Il est violoncelle solo dans notre orchestre. Et c'est vraiment un très, très bon musicien. Nous avons beaucoup travaillé ensemble pour la qualité de l'interprétation et on lui doit probablement plus qu'à moi pour la qualité de ce que nous faisons sur cette œuvre.
Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, allez découvrir, parce que vous dites un jeune, on va dire prodige, c'est peut-être un mot rabâché, enfin un bon violoncelliste, un excellent violoncelliste de ce que vous nous en dites, et puis quand même une œuvre du... extraordinaire.
Une œuvre merveilleuse.
Ça chante, c'est profond, c'est généreux, c'est une musique magnifique.
La beauté harmonique et la beauté de l'orchestration de Dvorak, c'est impressionnant.
On connaît ses symphonies, il faut découvrir le reste de sa musique, dont le concerto pour violoncelle qui est prodigieux. Et puis les tableaux, alors vous avez pris juste quelques extraits des tableaux.
Les tableaux, nous avons pris quelques extraits parce que cette fois, c'est une œuvre qui, pour l'orchestre, est extrêmement difficile. C'est vraiment très, très difficile. Et donc, nous avons sélectionné une partie. On va jouer la partie du début, la promenade et
le
Nomus, avec la promenade qui est derrière.
Oui.
Et puis ensuite, on va jouer toute la fin à partir du marché de Limoges jusqu'à la grande porte de Kiev, évidemment.
Terminer en beauté.
Pour terminer de façon grandiose. Comme l'indique la partition.
Et ce capriccio espagnol, qu'est-ce qui vous a amené à aller, redénicher cette œuvre, dont on disait un petit peu délaissée?
Alors, ce qui m'a poussé vers là, c'est essentiellement le rôle assez important qui est donné aux solistes de pupitre. C'est d'une part, et d'autre part, la beauté de l'orchestration, c'est magnifique.
Mais Rimsky-Korsakov est un très très grand orchestrateur.
Il y a un mouvement dans lequel le corps dialogue avec le corps anglais, qui est une merveille. C'est les deux timbres qui s'associent de cette façon, c'est merveilleux. Et donc on trouve là-dedans à la fois de l'éclat, parce qu'il faut se mettre à la place des pauvres trompettistes dans un orchestre comme ça, et qui ont parfois tendance un peu à s'ennuyer selon ce qu'on leur fait jouer. Et là, ils sont très contents parce qu'ils ont vraiment quelque chose à faire. Donc je l'ai choisi pour sa beauté, bien entendu, mais aussi pour le rôle qu'il donne à des musiciens de l'orchestre qui sont parfois un peu oubliés.
Ouais, puis je crois que dans le travail de l'orchestre, dans cette œuvre-là, aucun instrument n'est oublié quasiment.
Non, il y a un mouvement.
Chacun à un moment donné.
Il y a un mouvement qui est une suite de cadences de la flûte, de la clarinette, du cor, etc. Non,
voilà, donc vous entendez l'enthousiasme du chef, une musique enthousiasmante, plein de belles œuvres à découvrir, toutes du 19e siècle, mais toutes magnifiques. Donc, c'est à l'église Sainte-Thérèse le 17 mai à 20h30. Vous allez pouvoir découvrir un orchestre de jeunes enthousiastes qui aiment la musique, sinon ils ne rejoindraient pas l'orchestre. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a parfois des orchestres professionnels qui sont un petit peu fatigués. Et puis les musiciens n'ont plus forcément le premier enthousiasme. Et puis en plus, vous pourrez soutenir par ce biais, vous faire plaisir, ça fait du bien la musique. Je suis sûr que ça peut même prévenir des cancers, la pratique de la musique. Et du coup, vous pourrez soutenir l'action de la Ligue contre le cancer, association centenaire. Merci, professeur Dubois.
Merci
René Vaché.
Merci à vous.
Et merci à notre technicien. Et nous espérons vous voir en l'église Sainte-Thérèse le 17 mai à 20h30.